Et voici un premier journal présenté par Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Deux diplomates américaines interdites d'entrer en Israël, toutes deux élues démocrates au Congrès. Elles sont d'ailleurs les premières de confession musulmane. Une décision israélienne avec la bénédiction de Donald Trump.
En Allemagne, le départ de Ursula von der Leyen du ministère de la Défense pour aller présider la Commission européenne. Une grande parade s'est tenue hier à Berlin sur la musique de The Wind of Change, le vent du changement.
En France, plus de 200 services d'urgence sont toujours en grève depuis 5 mois désormais. Ils demandent toujours plus de moyens et dénoncent un gouvernement sourd à leurs revendications. Nous ferons le point sur la mobilisation en plein cœur de l'été.
Et puis le classement de Shanghai est révélé hier. Les universités américaines et chinoises trustent toujours les premières places. La France réussit péniblement à placer deux établissements dans le top 50.
Ces deux députés démocrates haïssent Israël et les Juifs. Ce tweet de Donald Trump, partagé plus de 25 000 fois depuis hier soir, crée la polémique aux États-Unis. Les deux diplomates, Ilhan Omar et Rachida Tlaib, devaient se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Elles ne pourront finalement pas le faire après la décision des autorités israéliennes de leur interdire l'accès à leur sol. Les deux élus, les premières de confession musulmane au Congrès américain, dénoncent un affront, Grégory Phillips.
Ilhan Omar, d'origine somalienne, et depuis les élections de mi-mandat, la représentante du Minnesota, Rachida Tlaib, née à Détroit mais d'origine palestinienne, représente à la Chambre le Michigan. Toutes les deux appartiennent à l'aile gauche du Parti démocrate et elles devaient arriver ce samedi soir à l'aéroport Ben-Gurion de Tel Aviv. Mais les autorités israéliennes en ont décidé autrement. Pas de visa pour ces deux élus du Congrès américain, car dit le ministère des Affaires étrangères, ces deux femmes soutiennent le mouvement BDS qui appelle au boycott de l'État hébreu. En février, Ilhan Omar avait été au cœur d'une polémique ici aux États-Unis quand elle avait dénoncé le poids des lobbies pro-Israël dans ce pays. Le plus troublant dans cette affaire, c'est que le gouvernement Netanyahou a pris cette décision dans la foulée d'un tweet de Donald Trump qui a expliqué que l'État hébreu ferait preuve d'une grande faiblesse s'il autorisait cette visite, accusant les deux élus d'antisémitisme. De ce côté-ci de l'Atlantique, le lobby pro-israélien AIPAC regrette la décision prise à Jérusalem, estimant que tout membre du Congrès américain devrait avoir le droit de découvrir en personne Israël.
Grégory Phillips, Donald Trump qui s'est également exprimé sur le même réseau social concernant la guerre commerciale qu'il oppose à la Chine. Lui, il affirme que ce conflit sera bref. Les discussions sont productives entre les représentants des deux pays qui vont se revoir en septembre. Et pour en finir avec l'actualité du président américain, on apprend dans le Wall Street Journal que Donald Trump souhaite acheter le Groenland, l'île arctique grande comme 4 fois la France dépend aujourd'hui du Danemark. La demande a été adressée à plusieurs reprises, précise le journal qui n'explique toutefois pas ce que Donald Trump souhaiterait en faire. La presse chinoise, cette fois, qui fait allusion, et c'est un fait très rare, à la répression de Tiananmen de juin 1989 et compare avec la situation dans la péninsule hongkongaise. L'incident à Hong Kong ne sera pas une répétition de l'incident politique du 4 juin 1989, estime le quotidien de langue anglaise Global Times. La force ne serait pas privilégiée, poursuit le journal, pour retrouver l'ordre dans la région après 2 mois de manifestations. De nouveaux projectiles ont été tirés cette nuit par la Corée du Nord. Ils se sont abattus en mer du Japon avant d'avoir pu être identifiés. Une réponse possible à la proposition du président sud-coréen. Il affirmait hier une volonté de réunification des deux Corées d'ici 2045. Il s'agit de la 6e salve de missiles nord-coréens en moins d'un mois.
France Culture, 7h04, c'est le journal de Maxime Fayolle. L'Allemagne a rendu hommage hier à sa désormais ex-ministre de la Défense.
Ursula von der Leyen quitte l'Allemagne pour prendre la tête de la Commission européenne pour les 5 prochaines années. Hier, son pays lui a rendu un hommage à la hauteur d'un chancelier ou d'un président avec une grande parade militaire. Une cérémonie aussi remplie de messages et d'indications, Ludovic Piétenu.
Grande parade militaire, les soldats portant des flambeaux, l'orchestre de l'état-major de l'armée allemande rend hommage à sa ministre et ses presque 6 années passées à la tête de la Bundeswehr. Non sans mal, la moitié des chars et des avions n'est pas en état de fonctionner et Ursula von der Leyen, même présidente de la Commission européenne, devra répondre très bientôt d'accusations de copinage devant une commission d'enquête des députés allemands pour des contrats attribués à des consultants extérieurs au ministère, des proches, sans appel d'offres. C'est donc en s'étant rendue très impopulaire auprès des Allemands qu'elle quitte Berlin et le gouvernement, mais hier soir, avec les honneurs, Elle se tient debout. À ses côtés, celle qui lui succède, Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, la dauphine de Merkel, qui s'initie son entrée au gouvernement. La chancelière, sujette récemment à des crises de tremblement, est dans l'ombre, en retrait et assise, là où elle aurait dû, selon le protocole, se trouver debout, aux côtés de ses deux femmes, fidèles parmi les fidèles. Une image qui illustre la fin d'une époque politique en cours en Allemagne, le vent du changement, comme l'a chanté il y a 30 ans après la chute du mur de Berlin le groupe allemand Scorpions, Wind of Change, chanson choisie pour l'occasion par von der Leyen. Ça fait partie de la tradition, les partants décident des choix musicaux en prêtant toujours attention aux messages politiques et aux symboles.
Précision à Berlin de notre correspondant Ludovic Piétenu. Le pétrolier iranien bloqué à Gibraltar depuis le début du mois de juillet va pouvoir repartir. Le chef du gouvernement de Gibraltar a reçu la promesse de Téhéran que le pétrole à bord ne serait pas envoyé en Syrie. Le pays est en effet frappé par un embargo de l'Union européenne. Une décision très critiquée par les États-Unis qui ont demandé à la dernière minute une prolongation de cette immobilisation. Ils ont également menacé d'interdiction de visa l'équipage du pétrolier iranien.
En France, à l'hôpital, la grève des services d'urgence, elle dure depuis 5 mois désormais.
Et aucun signe d'affaiblissement du mouvement malgré les annonces du gouvernement. Infirmiers et aides-soignants perçoivent depuis le 1er juillet une prime de 100 euros par mois. 15 millions d'euros ont également été débloqués pour embaucher des remplaçants cet été aux urgences. Cela reste insuffisant pour les personnels du secteur qui continuent ce mouvement. Une grève qui touche désormais la moitié des hôpitaux publics, Solène Lehen, même si là aussi il y a bataille de chiffres avec le gouvernement.
La mobilisation continue de progresser selon le collectif Interurgence, 220 services d'urgence désormais en grève. Mais pour le ministère de la Santé, cette mobilisation est au contraire en baisse avec 195 services en grève puisque certains ont obtenu des accords après négociation avec leur directeur d'hôpital. Quoi qu'il en soit, à l'hôpital public, environ un service d'urgence sur deux compte des agents grévistes. Les revendications se résument en quelques mots: plus d'embauches, plus de moyens, plus de lits, des hausses de salaire et davantage de sécurité. Le ministère de la Santé le précise bien, c'est à la direction de chaque hôpital d'engager des négociations avec les grévistes et éventuellement de débloquer des moyens supplémentaires, s'il le faut, avec l'appui des agences régionales de santé. Négociations au niveau local donc pour ce mois d'août. À la rentrée, la ministre Agnès Buzyn devrait annoncer de nouvelles mesures. Le collectif Interurgence a lui prévu une assemblée générale le 10 septembre, la CGT une journée d'action pour la défense de l'hôpital le lendemain.
Explication de Solène Lehen. L'incendie dans l'Aude qui a détruit plus de 900 hectares de pinèdes hier est désormais fixé. Encore 200 pompiers sont sur place ce matin pour éteindre l'incendie. Le vent devrait baisser aujourd'hui près de Carcassonne, ce qui va permettre de venir à bout des flammes. Voilà plus de 15 ans que ce classement est attendu tous les ans dans toutes les universités du monde. Le classement de Shanghai couronne une nouvelle fois Harvard, l'université américaine en tête depuis que ce classement existe. Seulement deux universités françaises se classent dans le top 50. L'université Paris-Sud est la mieux classée de l'Hexagone avec une 37e place, loin des meilleures, même si c'est toujours 5 places de mieux que l'an passé. Il ne faut toutefois pas tout regarder par le prisme de ce classement, relativise le président de Paris-Sud, Alain Sarfati.
Il faut que ça garde l'impact que ça doit avoir, c'est-à-dire uniquement un impact de visibilité. Il ne faut pas que ça devienne un outil pour piloter une université. L'université guide sa stratégie par les classements. Les classements, ils sont ce qu'ils sont. Il y en a de différents types. Ils utilisent différents types de critères, plus ou moins pertinents, plus ou moins objectifs. Donc il faut vraiment garder beaucoup de recul sur ces choses-là. Ça ne doit pas avoir d'impact sur la stratégie proprement dite. Ça doit avoir un impact sur comment est-ce qu'on fait pour que les différents critères qui sont pris en compte dans des classements qui sont visibles soient bien maîtrisés, d'une part. Et puis, l'impact direct, eh bien, c'est qu'effectivement, on est plus visible. Donc, c'est une question d'attractivité. Attractivité pour les étudiants, attractivité pour les chercheurs. Donc ça, c'est, je pense, l'impact le plus direct. Hein. Quand on est dans les radars internationaux, on est identifié comme une grande université. Forcément, ça a des conséquences en termes d'attractivité.
Le président de l'université Paris-Sud, Alain Sarfati, l'autre université française du top 50, c'est la Sorbonne. Elle est en 44e position de ce classement de Shanghai. Le temps de ce vendredi 16 août, le beau temps est de retour sur une très large partie du pays. Un peu de grisaille en début de journée sur la façade ouest et sur les Pyrénées. Le soleil sera généreux, c'est le terme employé par Météo France. Malgré quelques cumulus sur les reliefs, les températures minimales de 10 à 15 degrés en général, de 15 à 21 sur le pourtour méditerranéen.